Erev Tov, les Koulam, bienvenue dans notre étude du livre de Shemot. Et on est arrivé, Besha Tova ou Mutzlachat, Beperek Yudchet, Bepasuk Yudgimel. Perek Yudchet, chapitre 18, verset Yudgimel, verset 13. Ok? Dans les Chumashim blancs, il y en a qui disent que c'est une certaine page. Mais on n'a pas besoin de savoir la page, puisqu'on a toutes les informations lorsqu'on dit Perek Yutret et Pasuk Yud Gimel. Je peux, si vous voulez vous aider, vous dire que c'est le chéni de la paracha d'Yitro. Ça passe, ça. Tu t'y attendais pas, celle-là, tiens. Donc, allons-y. Alors, rappelons du contexte. Yitro est arrivé. Ok, on a compris tout ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. Donc on a terminé la semaine dernière sur cette question. Quoi, Moshe qui a passé 40 ans en tant que formation pour être pharaon d'Égypte. D'après les Midrashim, il a passé en plus pas mal de temps à être roi de Kush pour se faire la main. Mais même sans les Midrashim, je veux dire, il est prince d'Égypte. Il a été faire Sciences Po, l'ENA, ce que tu veux de l'Égypte. Et tu vas me dire que il n'est pas capable de savoir tout seul que c'est impossible que lui, à lui tout seul, il juge tout le peuple. Quoi ? Ne sait-il pas qu'il faut mettre en place un système de délégation, un système où il y aura plusieurs batei dinim ? Baruch qu'il le sait. Alors comment ça se fait qu'il ne le met pas en pratique et que Yitro doit lui donner la solution ? ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ויהי חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. יתרו את témoin de cette scène incroyable. On a dit la semaine dernière, peut-être que se sont fait juger 1500 personnes, enfin 1500 affaires, 3000 personnes, mais sur l'ensemble du Ham Israël, c'est Shum Davar. Et donc, où sont passés tous les autres? Ils ont dû attendre et finalement on leur a dit fermé, terminé pour aujourd'hui et les gens sont rentrés chez eux sans avoir été jugés. Et même ceux qui ont été jugés, t'imagines, attendre des heures et des heures et des heures. Bah, mazet tsarich liot.
Mais les autres,
il n'y
a que Moshe qui avait contact avec
Hachem,
non?
Il n'y a que Moshe qui avait contact avec Hachem. C'est exactement ce qu'il va répondre. C'est-à-dire qu'il est évident que le but du jeu n'est pas de créer comme ça un système général pour rendre la justice. Le système judiciaire, il est évident qu'il va être fait avec des batei dinim, avec des juges plus grands, plus petits, plus machin. Mais voilà ce qu'il répond. Alors regardons d'abord ce que dit Yitro. Yitro leur dit « Vayomer ma davar azé asher ata ose la'am » Qu'est-ce que tu fais ?« Madoua ata yoshev levadecha vechol ha'am nitzav alecha min boker ad arev » Toi, alors, il y a deux problèmes. Il y a un, que tu ranges la justice tout seul. Et deux, à ta yoshev et momdim. Ma'ara, ta yoshev et momdim. C'est-à-dire, pour ceux qui, à la limite, auraient des problèmes d'ulpan, eh bien, toi, tu es assis, et eux sont tous debout. Quoi, que Moshe, il reste debout toute la journée?
Non.
Moshe, il est assis. C'est logique. C'est qu'un vote pour le peuple juif ?
Non, mais ils attendent leur tour.
Et donc, toi, tu dis, c'est Bessader. Eux, ils sont debout toute la journée, toi, t'es assis, peinard.
Il n'y a pas de salle d'attente.
C'est pas le sens de siéger.
Non. Bien sûr que c'est le sens de siéger, mais ça veut dire aussi. Pourquoi est-ce qu'on appelle quelqu'un qui siège ? Qui est en siège ? Parce qu'il est sur un siège. Donc, tu as raison, bien sûr que ça veut dire siéger, mais le problème, il n'est pas que lui soit assis. Et le problème, c'est pas que lui. Le problème, c'est pas que lui soit assis. Le problème, c'est que les autres soient debout.
Non, c'est pas le problème qu'ils soient debout. Qu'ils soient debout toute la journée.
Ah ben évidemment.
Mais c'est pas.
Évidemment. Je parle pas de celui qui passe devant lui pour le jugement. Parce que effectivement, bah mishpat ata omed. Bien évidemment. Mais avant et après le mishpat, tu es assis. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce que nous faisons tous les jours, trois fois par jour. Avant le mishpat, on est assis. pendant Psouké des Imra, pendant Birkot HaShachar, pendant Kriyat Shema ou Birkotea. Et puis après, pour le jugement, c'est-à-dire pendant la Amida, on se lève. D'ailleurs, ça s'appelle la Amida. Et puis après, ça veut dire la Amot, ça veut dire debout. Et puis après, on se rassoit. Nachon, mais toi, qui te tiens devant ton juge pour te faire juger, t'es debout. Eh bien, c'est ce qui se passe. Pour le, alors, oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que pour le Mishpat, toi, tu es debout, c'est normal. Mais pas que tu sois debout avant et après. C'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi de l'Echabed, celui qui vient se faire juger. Il doit pouvoir être assis. Pourquoi ? Pourquoi c'est très important que celui qui vient se faire juger, il soit assis avant de passer en comparution ? Exactement. Comment s'appelle l'endroit où on étudie la Torah ? Une yeshiva. Qui vient à l'époque de l'hébreu, yeshiva. Et ça veut dire quoi, yeshiva ? Assis. Pourquoi est-ce qu'on étudie assis ? Pour qu'il y ait ce qu'on appelle yeshuv adat. Que tu sois posé. Même si à la yeshiva, c'est pas vrai, on n'est pas assis. Moi, j'ai jamais réussi à étudier assis à la yeshiva. J'étais toujours debout sur mon standard. Mais, ouais, parce que je suis hyperactif. Mais, il y a cette notion qu'à un moment donné, dans l'étude, tu te poses. Et c'est important, avant que tu passes en jugement, que tu puisses réfléchir, assis, posé. Et donc, il lui dit, c'est l'autov, ma doit, Hashem, le vadecha, le cholam, nitsa, valecha, min boker, adarev. Va yomer, Moshe, le chotno. C'est quoi la réponse de Moshe? Il aurait pu dire, je sais. Mais Katan, c'est sûr qu'il sait. Donc, il va lui donner une vraie réponse. Il lui dit, Ki yavo elai ha'am lidrosh Elohim. Les gens, ils viennent me demander la justice, mais en fait, c'est pas tellement pour la justice qu'ils sont là. Ils sont là pour lidrosh Elohim. Pour le moment, je suis le seul qui suis en contact avec Dieu, et donc c'était fondamental que je leur dise que les yesod, la base, l'origine, la racine de la justice doit être liée au dévoilement divin. Et ça, c'est fondamental. Combien de temps, nous disent nos sages dans le Midrash, combien de temps ça a duré, cette histoire où lui, il est assis, et Kol Ha'am Yoshev, et Kol Ha'am Omed, Slicha, et passe en revue, machin. Disent nos sages, ça a duré une journée. C'était, poum, c'était cette journée-là. Mais il n'avait pas prévu de faire ça une autre journée. Il a prévu de faire ça un jour, mon cher. Évidemment, pas pour gérer tout le monde et rendre la justice pour tout le monde, pour que tout le monde voit que la première fois où on rend la justice, c'est celui qui est en contact avec Dieu qui rend la justice. En d'autres termes, quand tu vas demander au Beit Din de te donner un jugement sur X ou Y point, ça rire, chova, que tu sortes de là avec l'impression que tu as été voir le dévoilement de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Shoftim sont nommés Elohim. Dans la paracha qu'on a vu cette semaine. Elohim lo tekalel. Venasi be'amcha lo ta'or. C'est-à-dire que le juge, c'est pas Dieu. On n'est pas en train d'idolâtrer qui que ce soit. Mais quand on vient voir le shofet qui vient nous rendre la halakha, le jugement al pia halakha, eh bien, on vient dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui est dit à propos de David Ameler. David Ameler nous dit dans Tehilim, Shaya ose, tzedaka o mishpat lechol amo. C'est marqué également dans le livre de Shmuel. Tzedaka ou Mishpat lechol amo. En fait, il est un des descendants directs d'Abraham. Je vous rappelle que c'était l'objectif que Dieu avait donné aux descendants d'Abraham. Leman yitzaper et banav et beto acharav. Leman yitzaper et banav et beto acharav. La'asot tzedaka ou Mishpat. Donc le but des Bnei Israël, c'est de faire et tzedaka ou Mishpat. Qui doit faire cela au paroxysme ? Celui qui rend la justice. David Ameler, aya osé tzedaka ou mishpat lechol amo. Nous dit là le Talmud, comment il faisait? A priori, tzedaka, c'est midat achesed. Mishpat, c'est midat adin. Comment tu peux faire les deux? En général, ce sont deux midot qui se repoussent l'une l'autre. Ah oui! Quoi? Ah non, la justice, c'est la justice. Par exemple, tu peux me prêter 10 shekels, s'il te plaît? 10 agourot. Et à la 10 agourot. Alpi midat achesed, tu dois me donner. Apimizatadine, si je ne mérite pas, tu ne dois pas me donner. C'est-à-dire, Donc, comment c'est possible? Eh bien, le Talmud va donner trois options. Première option, David, Aya Oset Zdaka ou Mishpat, comment il faisait? Eh bien, il décidait, par exemple, s'il était coupable, le monsieur, de dire, t'es coupable, tu dois payer 100 shekels. Seulement, une fois qu'il avait dit, il avait tapé du marteau, il dit, la séance de la mec. Il allait voir le mec, il dit, viens, et il lui donnait 100 shekels.
Seulement,
je n'étais pauvre. Quoi? Non, l'homme alors, c'est Zdaka ou Mishpat. C'est-à-dire, il a rendu le din, et puis après, il fait Zdaka avec le monsieur. Maintenant, le problème, dit la Gemara, c'est que dans ce cas-là, lorsqu'il fait le din, il n'y a que le din, et lorsqu'il fait la tzedaka, il n'y a que la tzedaka. Ce n'est pas tzedaka ou mishpat. C'est din lechoud ve tzedaka lechoud. Alors, on donne une autre option. Qu'en fait, il y rendait la justice, il disait, bon, tu dois 100 shekels, yala, je possède que tu dois 50. Pshara. Ben, c'est-à-dire que c'est juste, mais pas vraiment. Parce que c'est juste, il doit quand même payer quelque chose. Mais pas vraiment. Et c'est un peu de tzedaka, mais pas vraiment. Donc c'est moite-moite. Ah. Donc le Talmud va opter pour la troisième option. Que Ouaya Posek, que le mec, il est chayav, s'il est chayav, chayav, allez, 100 shekels. Et à ce moment-là, l'homme qui avait été jugé ressentait qu'on venait de lui faire une grande bonté de l'avoir permis de sortir du vol ou du problème. C'est-à-dire qu'on l'avait sorti du litige dans lequel il était redevenu Besseder. Donc il ressentait, lui, qu'il devait payer 100 shekels, qu'on lui avait fait une grande bonté, qu'on lui avait permis de revenir dans le droit chemin. Donc l'objectif ici, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu au travers du Mishpat. Et ce que dit Rav Kook ici, par rapport à ce verset-là, il va expliquer que Yesod HaMishpat, c'était fondamental que Moshe le mette en place, parce que le Mishpat, c'est la base des relations entre les hommes, et la relation que tu entretiens avec ton prochain, c'est le dogma de la relation que tu dois entretenir avec ton prochain. Ve'ahavta le'reacha kamocha, c'est qui re'acha par excellence? C'est Dieu. Donc la relation que tu entretiens avec ton prochain doit pouvoir être calquée sur la relation que tu entretiens avec Dieu. Et donc cette relation de justice doit dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ça aide. D'ailleurs, un jour, je me souviens, quand j'étais à la Yeshivat à Kotel, et on a eu un shiur klali. Ah, comme toutes les semaines, shiur klali du Rosh Yeshiva. Mais l'horaire avait été décalé. Il y avait une Brit Mila, machin. Hein. L'horaire avait été décalé. Et donc, je crois que c'était vers 4 heures le shiur, alors que d'habitude, c'était à 2 heures. Bon, l'homme chané. Sauf qu'en plein milieu du shiur, c'était l'heure de mincha. Enfin, pas pour nous. Parce qu'à la Yeshiva, on faisait mincha à 1h d'après-midi. Non, pour eux, nos amis... musulmans. C'était l'heure de mincha. Maintenant, la yeshivat à Kotel, je ne sais pas si vous voyez où elle est, elle trône au-dessus du Kotel, dans la vieille ville, machin, donc elle est juste en face du Harbait. Autant te dire, en son Dolby Surround Stereo THX, du muezzin. Et donc, en plein milieu du shiur, c'était terminé, on ne pouvait plus rien entendre, muezzin la Mehadrine. Donc, t'imagines que tous les jeunes, moi y compris, très énervés, « Oh non, c'est quoi ça ?» Et Rosh Yeshiva, il a dit, Tov, Rabotai. C'est-à-dire, c'est Matzben, on va attendre 5 minutes, tout ira bien, Kol Tov. Il dit, maintenant regardez, venez, on met de côté tout notre litige politique, que c'est notre terre, que c'est Arabaï, que... ok. Sachakol, ce qu'on vient d'entendre, qui nous embête. Mais Sachakol, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé qu'on reconnaisse que Dieu est grand. Ils sont en train de prier Dieu. Zelo Kol Kachra. Nous aussi, on veut revenir au Beit HaMikdash, Bezrat Hashem, Inch'Allah, pour prier Dieu. Il dit, mais quelle est la grande différence dans cet endroit-là, entre eux et nous? Parce que si c'est une histoire de prier Dieu, c'est le même Dieu. Et là, il a dit, il ne faudra pas oublier une chose. C'est que quand on va reconstruire le Beit HaMikdash, ça ne sera pas seulement la salle de prière. Au Beit HaMikdash, il y aura également l'Ishkat HaGazit. Il y aura également l'endroit du Sanhedrin. C'est également là-bas qu'on rendra la justice, la haute cour de justice, le bagatz tel qu'il doit être, pas tel qu'il est, bien sûr, tel qu'il doit être, ne doit pas être Givat Ram, il ne doit pas être Bekirat HaMemshala, il doit être בארבעית בבית המקדש. בסדר? Pour relier la présence divine avec la justice entre les hommes. בסדר? Donc, voilà ce qui répond. ואומר משה לחותנו, כי יבוא אל הים לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, דונק יתרו לי רפון, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. דור, אה? Qu'est-ce qui est plus dur, de dire לא טוב ou de dire רע? למה? Ah non, il faut être prêt à défendre ses opinions. Alors je te demande, qu'est-ce qui est pire, de dire lotov ou de dire ra? Pourquoi?
Parce que c'est un mot qui a une connotation négative.
Ah bah toi tu m'étonnes.
Par contre, lotov, il y a du positif. En dehors, l'eau, bon, c'est rien du tout. Mais c'est lotov.
De toute façon, l'eau, c'est rien du tout. L'eau tirtzach. Il y a marqué dans la paracha.
Dans une démarche qui négative.
Oui, j'entends bien, mais quand tu dis lotov, le lot, il n'a pas vraiment de signification. Je te rappelle que dans la Torah, il y avait marqué il y a deux semaines lot tirtzach. Tu ne tueras pas. Si tu enlèves le lot.
Non, mais au lieu de dire maintenant qu'il y a un homme désagréable, tu n'es pas agréable. C'est pas pareil.
C'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que quand tu dis ra, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tov. Ça veut dire que pour l'instant, le ra, il prend le dessus. Mais si tu dis que tu as été kovea, que c'est lotov, en botov, c'est lotov. C'est encore pire. Tu as enlevé toute la possibilité de tov. Le problème de Yitro, c'est que lui, il vérifie le côté pratique. Parce que Yitro, il veut savoir comment on gère la vie entre les gens. Et il voit que ça marche pas comme ça. Et il a raison. Seulement, il parle pas du même niveau. Lotov, adavar asherata ose. Lama? Ki nabol tibol, gamata, ve gama amaze, asherimach, ki kaved mimcha, davar, lotuchal asaou levadecha. Il revient sur un problème technique, il dit, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Tu vas te fatiguer, tu ne tiendras pas la cadence. Mais Moshe, ça, il le sait. C'est parce qu'il lui a dit. Il dit, non, mais tu n'as pas compris, le but du jeu, c'est de les connecter à Dieu. Alors, qu'est-ce... Oui. Ah, pourquoi pas? Ça veut dire quoi, inférieur? Dans le domaine de quoi?
Dans le domaine de la justice,
qui te dit? Qui te dit? Qui a appris à Moshe tout ce qu'il sait? Qui a appris à Moshe tout ce qu'il sait? Yitro. C'est Yitro. C'est pas rien. C'est son rave. Nounou. Ata shema bekoli. Écoute-moi, dit Yitro. Yatzecha vei Elohim imach. Eye ata la moula Elohim. Veveta ata et devarim el Elohim. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את דרך, את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. Je suis d'accord, dit Yitro, que c'est toi qui dois faire le contact avec Dieu. בסדר. Et c'est toi qui dois leur enseigner les chemins de Dieu. אבל ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, ירא אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן נשפטו הם, והקל מעליך ונעשו איתך. Donc, Yitro, il dit, voilà ce que je te propose. Tu vas, toi, former des juges, et tu vas, pas délocaliser, déléguer, merci. Tu vas déléguer. C'est-à-dire que tu vas mettre des juges de 1000, des juges de 100, des juges de 50, et des juges de 10. En gros, t'as le rav de la synagogue, t'as le rav de la shrouna, t'as le rav de la ville, et t'as le grand rabbin d'Israël. C'est-à-dire comme ça, dès qu'il y aura une petite question de Hilchot Shabbat, tu vas voir le rav de la synagogue. Quand t'auras une question de, je sais pas moi, Hilchot Eruv Ba'ir, tu pourras aller voir le rav shrouna, qui sait par où passe le Eruv dans la shrouna. Quand t'auras une grande question sur, je sais pas moi... dîner knassot au niveau de l'arnona et du corona, tu iras voir le rav de la ville. Et quand tu auras des grandes questions sur la tiragounot, à cause d'une guerre qu'il y a eu dans le pays, tu iras voir le grand rabbin d'Israël.
C'est-à-dire qu'à l'heure de maintenant, il y a des hommes qui sont capables de régler les affaires, qui sont capables de juger, de faire la justice, ils connaissent...
Bah, Comment ça? Ils font quoi les rabbins alors?
Non, là, 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 ici.
Tu me demandes maintenant? Tu m'as demandé.
Là,
ben Moshe va les former. Moshe, il va les former. Atta Techazé. Ah ben évidemment, il faut qu'il les forme. Pas de problème. Ben évidemment, il faut qu'il les forme. Moshe va les former. Il va regarder. Non, il n'y a pas marqué comment il va les former. Il y a marqué comment il va les choisir. Ah, excuse-moi, autant pour moi. Comment il va les choisir, ça c'est vrai, ça c'est facile, c'est marqué. Il a dit, regarde, Anche Chayil, Anche Emet, Soné Batsa. Donc ça veut dire quoi? Ah, est-ce que ça va être forcément les chefs de tribu?
Non.
Il y a forte chance que ce soit, que les gens qui répondent à ces critères-là soient déjà des figures emblématiques. Mais on peut être sûr qu'il y en a des qui n'étaient pas prévus, des outsiders que Moshe il a choisi. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il y a de fortes présomptions que les gens qui étaient d'ores et déjà des dirigeants du peuple, eh bien, ils remplissaient les catégories. Mais il est très probable que Moshe il ait vu chez quelqu'un que personne ne connaissait la grandeur suffisante pour. C'est tout à fait possible. C'est possible. Donc on nous dit ici, il y a plusieurs qualités. Il faut que tu sois, je reprends le texte, Anche Chayil, Yire Elohim, Anche Emet, Sone Batsa. Donc, Maze Anche Chayil. Nous dit Rashi, Ashirim. Ashirim. Riche. Hein? Pourquoi est-ce que Chayil ici, c'est pas des gens, tu dis Chayal? Hein, des gens forts. Eh ben, c'est effectivement dans le sens, dans ce sens-là que vont d'autres commentateurs. Mais pourquoi est-ce que Rashi va dans le sens, ils sont riches? Parce que là, on leur demande de faire quoi au final? De rendre la justice. Donc Rashi, il te dit, j'ai pas besoin de ces qualités de guerrier, là, maintenant. C'est pas ça qui m'intéresse. On demande pas de mettre en place des chefs d'armée. On demande de mettre en place des chefs de tribunaux. Donc, quand tu me dis Chayil ici, ça m'intéresse pas qu'il soit fort. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, il n'est pas corruptible.
Peut-être Chayil dans le sens non corruptible, parce que pour être incorruptible, il faut être quand même fort.
Fort, mais surtout, il faut ne pas avoir besoin.
Hein? Corruptible, c'est la quatrième.
Non, parce qu'il y a une différence entre avoir tout ce que tu as besoin et en vouloir toujours plus. Soné Batsa, tu peux être très très riche et vouloir toujours un truc en plus. Mais celui qui est tout pauvre, qui est tout le temps perdu dans sa tête de qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger demain, c'est un problème. Parce qu'il va être beaucoup plus tenté de recevoir un petit bakchiche.
Que nous raconte une histoire de nos sages en Afrique du Nord, le Dayan, il était toujours pauvre.
Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que ce serait un idéal d'être pauvre?
Non.
Non, bien fait. Non, attention, c'est pas parce que t'es riche que t'es incorruptible. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'on puisse te corrompre si t'es pauvre que si t'es riche. Maintenant, toi, tu dis, non, mais on a plein d'exemples de gens qui roulaient pas sur l'or du tout, et qui étaient pourtant des tzadikim, et qui ont refusé toute corruption, ou quoi que ce soit. Bon, d'abord, Baruch HaShem, qu'il y a des gens bien, quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, c'est pas du tout un idéal, c'est parce que Zema Shehaya. Il n'y avait pas le choix. Parce que malheureusement, Bagalout, de manière générale, celui qui se donnait vraiment pour la Torah, pour devenir un grand dans la Torah, eh ben, financièrement parlant, c'était pas non plus le plus top du top. Mais ça, c'est un des résultats de l'exil.
Pas seulement dans la Galoute.
Si. Quand tu regardes dans le Tanakh, tu vois que les Shoftim, ils ont pas l'air d'avoir besoin de quoi que ce soit. Par exemple, Boaz, le plus riche de son époque. Quand tu regardes les Nevi'im, Mitnae Anevoa, c'est d'être riche, comme on avait déjà expliqué. Quand tu regardes Rabbi Yehuda Anassi, qui est en fait la dernière bribe de l'avant-galoute, si on veut, Rabbi Yehuda Anassi, c'était non seulement Anassi à Sanhedrin, mais en plus, il n'y avait pas plus riche que lui depuis longtemps et pendant longtemps. Et Hillel, qu'est-ce qu'il a eu comme problème? Non, ça c'est au début. Il n'était pas encore nassi. C'est vrai qu'au début, il n'avait pas du tout beaucoup d'argent, il était prêt à se donner corps et âme pour étudier la Torah. Seulement, au final, quand il devient nazi Israël, il n'est plus dans le besoin. Quoi, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il était plein aux as. Rabbi Akiva, il était plein aux as quand il était à Kiva. Quand il était à Kiva, pendant les 40 premières années de sa vie, il n'était pas encore Rabbi Akiva, il était le PDG de la plus grande multinationale du Moyen-Orient. Il était Roé Edrehe Kalba Savua. Il était donc le berger en chef des troupeaux de l'homme le plus riche du monde. Non, c'était le PDG, c'était pas le président, c'était le DG, excuse-moi, c'était le DG, pas le PDG, c'était le DG de la plus grande multinationale de l'époque. Ensuite, il a eu la mauvaise idée de tomber amoureux de la fille du patron, et là le patron il a dit nein, et il a dit à sa fille je te coupe les vivres. Et il a viré Rabbi Akiva. Bon, maintenant, a priori, on ne sait pas s'il n'avait pas un petit compte en Suisse ou un truc, il avait placé de l'argent. Nakhon, dans l'histoire, on te dit, ils ont dormi dans une étable, nanana. Ok. Et il était Rabbi Akiva à ce moment-là?
Il est en devenir.
Il a fait. Et quand il est devenu?
Je sais pas.
Ben, si tu sais, parce que qu'est-ce qu'il a offert à sa femme? Une Yerushalayim Shalzav, qui coûte 3 bras. C'est-à-dire, à tel point que lorsque il arrive à Jérusalem et qu'il donne sa Yerushalayim Shalzav à sa femme, à ce moment-là, le Nassi à Sanhedrin, c'est qui? C'est qui le Nassi à Sanhedrin? Rabban Gamliel. Et la femme de Rabban Gamliel, elle dit à son mari, « Ah, t'as vu, Rabbi Akiva, il a donné Yerushalayim Shalzav à sa femme, moi je veux pas dire. » Et il lui a répondu, « Quand tu seras au niveau de la femme de Rabbi Akiva, on parlera. » Je sais pas, je veux pas rentrer dans les... Hein, c'est chacun... Voilà. Quand il est devenu Rabbi Akiva... S'il est capable de donner un Yerushalayim Shel Zahav à sa femme, c'est que Baruch HaShem, ça va.
Ouais, je veux dire, bon, je pense pas qu'on puisse s'appuyer uniquement sur le fait d'être riche.
Ah non, non, bien sûr que non.
C'est une qualité.
C'est la première, il y en a quatre.
Voilà.
Non, mais c'est évident.
Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a beaucoup de riches qui sont corruptifs.
C'est pour ça qu'il y en a 3 autres. Mais c'est pour ça qu'il y en a 3 autres.
Oui, non, mais...
Non, mais c'est-à-dire que... T'as raison, si c'était que ça, bien sûr que ça marche pas. Il y en a 4.
Si on choisit un pauvre, oui. Parce qu'on le connaît, en tant qu'incorruptible, quelqu'un qui a un caractère différent, il n'est pas riche.
Ouais.
Il va avoir un salaire. Donc, plus tard, il aura les moyens.
Bon, tu sais ce que c'est.
Quand il aura les moyens.
Tu sais ce que c'est, le rabbin qui ne croule pas sur l'or et que sa communauté ne croule pas sur l'or. Tout d'un coup, t'as quelqu'un qui vient et qui dit, monsieur le rabbin, je vois qu'il y a un trou dans le toit. On va faire un petit chèque. Hein? Pas de problème. Il se trouve que c'est de l'argent que j'ai blanchi. Mais tout va bien. De toute façon, l'argent n'a pas d'odeur.
Il le dira pas, ça.
Quoi? Qu'il a blanchi l'argent?
Ouais.
Oui, il le dira pas. Mais toi, tu as compris. Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas?
Non.
Bah, si je sais que c'est de l'argent qu'il a blanchi.
Oui, mais quand tu vois à quel point le Kollel que tu soutiens, il y a 20 personnes qui n'ont pas à manger, qui ont 12 enfants chacun. Hein, tu vas peut-être te poser une question à un moment donné, peut-être que ça va monter dans ta tête que bon, allez, une fois. Et puis après, ce sera une deuxième fois. Après, une troisième fois. Je dis pas qu'il va le faire. Je dis que c'est la tentation, et des fois pour de bonnes choses. Elle est grande. Maintenant, c'est sûr que si c'est que soit riche, c'est pas du tout une garantie. C'est pour ça qu'on te dit, Anchechaïl, Yireh Elohim. Donc ça veut dire qu'ils ont entendu Lotignov, par exemple. Par exemple. Anche Emet. On est dans le verset Kaf Aleph. Oui. Ensuite, Anche Emet, des gens de vérité, et Soné Batsa, qui ont en haine la corruption. Ouais, l'argent, mais l'argent mal gagné, quoi. C'est-à-dire, donc, si tu as les 4 qualités, on peut te faire confiance. Ça ne veut pas dire maintenant que tu es prêt à juger. Donc pour ça, Moshe, il va les former, bien sûr.
Et comment
il
arrive à voir tout ça?
Moshe? Eh bien, il est physionomiste. Il est physionomiste. Non, non, c'est pas une plaisanterie. Je le dis pas en rigolant. Je le dis pas en rigolant. Il est béhémet physionomiste. Il y avait un bonhomme qui était très très grand, mais qui n'était pas Moshe Rabbeinu, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Luria à Ashkenazi, plus connu sous son surnom, le Harizal. Rizal. Là, Rizal, à Tzfat, il se balade dans les rues de Tzfat, et un jour, il rencontre Rabbi Arav Galanti. Et un des grands personnages de Tzfat, il dit à Arav Galanti, le Arav Galanti, il le salue, il dit Shalom. Il lui parle pas. Alors il le poursuit. Il dit Rabbeinu, Shalom. Il dit I efshar la'arzir lecha Shalom, katuv ala metzach shelcha racha. Je peux pas te rendre le Shalom, il y a marqué sur ton front que t'es un racha. Non, le Ari, il a dit ça, Rav Galanti. Débrouille-toi. Il est rentré chez lui directement. Il avait chez lui une espèce de petite entreprise de femmes qui je sais pas si brodaient ou tissaient quelque chose. Travaillaient dans le textile, quoi. Et dans Schmattes. Et il a dit, il a rassemblé toutes les ouvrières. Et il a dit, Tov, je mets dans la chambre d'à côté une pile de pièces. S'il y a une personne qui pense que je lui dois quelque chose, que j'étais injuste dans le salaire, dans ce que tu veux, qu'elle rentre et qu'elle prenne ce qu'elle pense que je lui dois. À la fin de la journée, il est retourné dans la pièce, il manquait une pièce. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a pris une pièce qui pensait que parce que elle avait travaillé une heure de plus un soir, et ça lui avait pas été compté, elle pensait que ça lui revenait. Le lendemain, il arrive devant le Hari, et le Hari dit « Shalom Alecha Rabbi ». Donc c'est de cela qu'on parle. Alors le Harizal, il a vu ça marqué sur son front. Et le Harizal, c'est katan par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors tu t'imagines ce que Moshe était capable de voir sur ton front. Ok ? Bekitsour, ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו הם, והקל מעליך ונעשו איתך. אם את הדבר הזה תעשה, si tu fais ce que je te dis, וציווך אלוהים ויכול תעמוד, et tu verras que Dieu, il te dira qu'il faut faire ça, et tu pourras tenir. וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. Et tu verras que ça profitera à tout le peuple, qui viendra au shalom. Il y aura le shalom entre les gens, parce que chacun, il pourra régler son problème. Mais évidemment que c'est important. Ah ben évidemment. Ah mais il connaît un petit peu la notion du divin. Pas étranger pour lui, oui. Attends, tu voulais dire un truc? Non Richard, non? Non? Oui.
La question qu'on a posée au départ.
Oui. Que quoi?
Moshe, il a pensé.
Ah, Vaishma Moshe l'ekol choteno, vayas kol asher amar. Nous disent nos sages, Vaishma Moshe l'ekol choteno, et il va faire ce que Yitro lui a dit, sauf que c'est pas parce que Yitro lui a dit. Vayas kol asher amar. Et il fait tout ce que Dieu lui avait dit, parce que Dieu lui avait déjà dit de faire ça. Quand? Et de toute façon, il n'avait même pas besoin de Dieu. Il savait très bien qu'il fallait faire ça. Il a attendu le tzivouï de Dieu et il a entendu également que Yitro lui dise. Ah, mais si Moshe, il le sait déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin que Yitro nous le dise? Mishte Sibot, Alef Kavod pour son beau-père, et deux, parce que c'est Chachouv Meod de savoir que l'humanité, représentée ici par Yitro, s'est élevée à la dimension de la justice. De la justice. Ok? C'est l'un des tenants pour pouvoir arriver au Mahamad Arsinaï. Que le monde soit prêt à entendre. Le monde, ça veut pas dire que tout le monde, mais ne serait-ce qu'il y a un représentant du monde qui est prêt à s'être élevé à ce niveau-là, ça veut dire que c'est bon. Midrash va nous dire, Raoui aya Yaakov avinu shetinaten Torah al yado, aval doro lo aya raoui lekach. C'est-à-dire que Yaakov était digne que la Torah soit donnée par lui, mais sa génération n'était pas digne. C'est qui la génération de Yaakov? Ben non, ça c'est la génération d'après. Les Goïms, qui sont tout autour de lui, à commencer par son frère, Esav. C'est-à-dire que dans la génération de Yaakov, il n'y a personne, représentant du monde, qui a le niveau pour que la Torah puisse être donnée. À l'époque de Moshe, il y a Yitro. Ok ? Alors, ben, c'est וישמע משה לכל חותנו, ויעז כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, וייתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושבתו את העם.
וי?
יפיקו די אנשי חיל. נכון. למה? דימטווה? נו? דימטווה? מה אתה אומר? Donc si Moshe les a choisis, c'est qu'ils sont bécédés au niveau d'Iré Elohim, de Anche Emet, Vesone Batsa. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut être visible de l'extérieur, c'est est-ce qu'ils sont Chahil ou Lo. Est-ce qu'ils ont un, ils peuvent, il a sûrement demandé que les comptes en banque soient officialisés pour tout le monde, qu'il y ait une transparence complète pour tous les juges qui ont été nommés. Mais tous les trois autres choses, ça se passe dans le cœur. Qu'ils soient Iré Elohim, Anche Emet, mais ce n'est pas de ça. Donc, c'est-à-dire que ça, j'ai pas besoin de l'étaler parce que je pourrais pas l'étaler. Mais moi, si je t'ai choisi, je suis Moshe, je sais que tu l'as. Ok ?
Si je comprends bien,
oui.
Yitro demande à Moshe de déléguer auprès de gens éminents, sages, d'hommes de vérité, etc. Mais ces gens, ces chefs-là, qui vont juger, jugeront en fonction de leur âme et conscience.
Non.
Alors que, parce que c'est dit après que finalement, Yitro lui dit, mais finalement, c'est Dieu qui jugera, ensuite vis-à-vis de Moshe, qui jugera à travers toi.
Donc ça veut dire qu'ils ne jugent pas. Donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas juger en leur âme et conscience. Ils doivent juger en fonction de la halakha. Ils doivent juger en fonction de la Torah. C'est pas leur âme et conscience.
Mais là, on a ajouté que qu'ensuite, dans les cas particuliers où les hommes de confiance ne pourront pas juger.
Eh bien, ils transmettront à Moshe.
C'est Moshe ou nous, c'est Dieu qui jugera à travers Moshe.
Nous, Mabaya.
Mais la différence. La différence, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir de Kodesh, donc ces hommes imminents, et que seul Moshe est là.
Nous, et alors, justement. Ça veut dire que c'est comme aujourd'hui, toute proportion gardée. Tu vas voir un rave, tu lui poses une question. Mais cette question, elle est trop pointue pour lui et il n'est pas au niveau. Ben, il te dit, va voir un rave plus grand. Oui, non, mais j'ai parlé de rabbanim parce qu'on parle de gens qui veulent juger d'après la Torah. La Cour suprême, malheureusement, aujourd'hui, elle est suprême, mais c'est une cour de récré plus qu'une cour de justice. Nous, bah donc c'est évident que les cas qu'on n'arrive pas à traiter, c'est à lui qu'on va le donner.
Oui.
Ben voilà.
Mais il est face à Hachem.
Mais il a transmis ça aussi aux autres. C'est-à-dire que ce qu'il a enseigné aux autres pour les former, pour qu'ils deviennent juges, c'est quoi? Il leur a transmis. Ce que Kadosh Baruch Hu lui a lui-même transmis. Non. Non. Ils ont la Torah. C'est ma choix. Ah, vous rentrez ici dans la question, est-ce que ce texte a été donné, enfin cette histoire se passe avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? Ben kar, si c'est après le don de la Torah, bichla, il n'y a pas de débat. Mais si c'est avant, je vous rappelle qu'on a quand même déjà reçu des lois. On a déjà reçu des lois. Les 7 lois de Noach déjà depuis longtemps. On a reçu Brit Mila, on a reçu Guida Nacher, on a reçu Shabbat, on a reçu Paradouma, on a reçu des choses. Ça veut dire quoi, indépendant par rapport à Dieu? Mais ça veut dire quoi, par eux-mêmes? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a donné le libre arbitre à l'homme. Et quand l'homme y juge, et ça dépend pas, ça date pas d'aujourd'hui. Non. Il prend un peu tout en main. Des fois il délègue à Moshe, des fois il dit à Moshe de déléguer à d'autres. Ça va passer dans 2 secondes aussi par Aaron.
Oui.
Par Elazar, Veitamar, nous.
Maintenant, ces juges qui vont venir, ça passera aussi.
Bah oui.
Dieu qui passe par eux.
Oui.
C'est un Ruach HaKodesh.
C'est Ruach HaKodesh. Tous les rabbins n'ont pas le Ruach HaKodesh. C'est une Siyata Dishmaya. C'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour qu'ils ne se plantent pas.
Ah,
mais des fois, ils se plantent.
Alors, il n'y a pas.
Ben, ça veut dire que Dieu, il aide, mais ça ne veut pas dire que l'homme, il se trompe jamais.
Mais s'il aide.
Eh bien, peut-être qu'il a mal compris l'aide. Quoi ? C'est Khadash, là, qu'il y a des fois des rabbins qui peuvent se tromper ?
Oui, non, mais là, dans le contexte. Mais
là, dans le contexte ! Non. Les rabbins, ils vont juger. Des fois, ils vont se planter, ça arrive.
Oui, de nos jours, je suis d'accord.
Eh bien, de leur jour aussi.
C'est pas le même
dévoilement que... Non, ils se plantent moins. Ma.
Non, mais avant ça passait que par Moshe. Par Hachem et Moshe.
Chouv et Moshe, il peut pas se tromper ?
Non.
Ben si.
Oui, oui, mais bon, mais non, mais oui, mais non.
Choisis. Oh, mais bon, mais non, mais oui, mais non, mais choisis. Bien sûr que Moshe peut se tromper aussi. Il y a une preuve dans la Torah qu'il s'est trompé. Tu te rappelles ? Nous. Oui.
Et c'est Dieu qui a choisi Moshe.
Tout à fait.
Il trop, bon, peut-être si trop il s'avance en disant que Dieu jugera à travers toi. Il ne le dit pas pour les autres hommes.
Nachon, va falloir faire confiance à Moshe. Nachon, va falloir faire confiance à Moshe.
Elle a été choisie par Hachem.
Et tant qu'il n'a pas eu l'aval de Moshe et des Bnei Israël, il n'a pas pris son place, il n'a pas pris son rôle.
Oui, certainement.
Donc ça passe aussi par nous. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Vous enfoncez des portes ouvertes. Vous avez raison. Vous avez raison. Le rabbin des 10 qui a été mis en place par Moshe, il n'a pas un niveau de dévoilement comme Moshe. C'est nachon. Oui. Ça, oui.
Je peux proposer une...
Mais propose.
Que Yitro est passé avant le nom des
vivants. Oui, on a dit, c'est possible ça. Il y a certains commentateurs qui disent ça. Mais bien sûr. Non, mais on l'a déjà dit. On l'a dit la semaine dernière. Cette paracha, il y a une marloquette. Est-ce qu'elle se passe avant ou après? Les deux avis ont largement de quoi étayer leur avis. Et donc, et j'ai précisé que de toute façon, c'est pas tellement important pour nous puisque Dieu a décidé de le marquer avant. Donc, dans tous les cas, il faut que nous, on le comprenne comme si ça s'était passé avant. C'est-à-dire que l'enseignement qu'on doit en tirer, n'est pas un enseignement après les 10 commandements. Il est avant les 10 commandements. Même si possible que chronologiquement, c'est passé après. On s'en fiche. Si Dieu nous l'a marqué avant, c'est que nous, on doit le comprendre comme si c'était avant.
Parce qu'on a l'emplacement géographique.
Mm-hmm.
Ils ont tenté devant la montagne.
Oui.
Côté Horeb.
Non.
Après le passage de Yitro, ils vont décamper pour aller du côté Sinaï.
Non. Pourquoi ? Parce que tu dis que ce n'est pas le même endroit, Midbar Horeb et Midbar Sinaï ?
La montagne porte deux noms.
Oui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est deux endroits différents de la montagne ?
D'un côté, on l'appelle Horeb.
Qui te dit ?
De l'autre côté, on s'appelle Sinaï.
Qui te dit ?
En Arabie Saoudite, on te le dira.
Oui, mais ça...
C'est toujours
valable. Ouais. Ça, ce n'est pas un vrai argument. Parce que eux, ils disent ça, ça ne veut pas forcément dire que. Maintenant, Khoutz Mizé, tu remarqueras que Midbar Sinaï, ça s'appelle aussi comme ça avant qu'on arrive mamash là-bas. Et on restera là-bas aussi pendant un an.
Parce que c'est la même montagne.
Mais oui, c'est la même montagne. Bien sûr. Donc, et deuxièmement, je te rappelle que le campement d'Ebné Israël, il est plus ou moins sur tout le contour de la montagne. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais l'homme est chané, même si ça se passe avant ou après, qu'est-ce que ça change? Mais de l'autre côté aussi, c'est le désert. Mais
désert de
Sinaï,
c'est ton côté.
Si tu veux. Et
c'est pas si jamais, c'est écrit.
Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Tu me dis que c'est forcément deux endroits différents. Parce qu'en Arabie Saoudite, ils disent que c'est deux endroits différents. C'est pas un argument. J'entends, c'est possible, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ça peut être aussi que l'endroit s'appelle de deux noms différents parce qu'il porte deux fonctions différentes.
Là où Hachem s'est révélé à Moshe,
oui.
C'est du côté Horeb.
Oui.
Moshe, avant d'arriver là-bas, il nous a dit qu'il est allé derrière le désert.
Je comprends pas. Et il s'est pu redévoiler dans l'endroit qui s'appelle Sinaï ?
Le Sinaï, c'est après qu'ils vont aller de l'autre côté.
Mais est-ce qu'il s'est encore dévoilé là-bas ?
Ils vont quitter le troisième.
Est-ce qu'il s'est encore dévoilé là-bas, au hors Sinaï ?
Bien sûr.
Il a fait. Donc il y a un dévoilement là-bas, il y a un dévoilement là-bas. Donc qu'est-ce que ça change que ce dévoilement il soit passé, que l'histoire de Yitro, ça se passe avant ou après ?
C'est
l'occasion de
méchaner.
Il a fait, c'est ce que je dis.
Quand on dans les détails.
Mais c'est bien. C'est pour ça que je te dis, je suis pas contre. Je dis juste que, ok, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, pour nous, nous, on le lit avant. Donc, c'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire, dans tous les cas. Donc, au final, la question qu'on se pose, c'est, Besséder, donc on a très bien compris, Moshe, il fait ce qu'il a à faire, il met en place Sarei Hamishim, Sarei Hamishim, Sarei Hamishim, Sarei Sarot, et effectivement, Yofi, Akol Tov, ça va marcher. Veshavtu et Ha'am Becholet, et Ha'davar HaKashe Yavion El Moshe, et Kol Ha'davar HaKaton, Nishpotuhem, Veishalat Lecha Moshe Et Chotno, Veyelech Lo El Arzo. Et là, on nous raconte qu'à la fin de l'histoire, Moshe a renvoyé, ou a raccompagné, parce que l'échalère, ça veut dire raccompagner, son beau-père, chez lui. Rashi nous dit, il est parti le Gayer et Bene Umato. Il est parti convertir les gens de son peuple. Est-ce que lui-même s'est converti? Pas clair. Ses enfants, oui. Mais lui, c'est pas clair. Mais lui, c'est pas clair. Ça ne veut pas dire que lui, quand même.
Comment tu convertis quelqu'un à une religion, à une foi que tu n'as pas toi-même adoptée?
Bon, ça, c'est facile à faire. Ah ouais. Tu leur dis, va voir là-bas, moi, j'y arrive pas, mais moi, je suis trop vieux. Mais allez-y, vous. Par exemple, je connais plein de gens qui ont une émouna très profonde qu'il faut aller vivre en Israël, qui, eux, le font pas, mais envoient leurs enfants. Je sais pas si tu connais aussi des gens comme ça. On en connaît tous des gens comme ça. Mais ils te disent, moi je peux pas, je suis trop vieux, j'ai un travail, machin. Mais ça veut dire qu'il est plus là. C'est-à-dire que Yitro n'est plus là.
Mais pourquoi il
y a marqué l'eau, parce qu'il est venu à la base, il est venu avec Tzipora, avec les deux enfants de Moshe. Il n'est pas reparti avec eux. Enfin, avec Tzipora et les deux enfants. Il est reparti tout seul. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi est-ce qu'il est plus là? Techniquement, parce qu'on a dit, il est parti voir son peuple et convertir son peuple. Mais pourquoi est-ce que nous, c'est important de le savoir? Parce que maintenant, il va y avoir une date. Maintenant, il va y avoir une rencontre exclusive entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Même si cette rencontre, elle va avoir une portée évidemment universelle, on a envie d'un peu d'intimité. Exactement. Donc c'est chachouf de savoir qu'il n'est pas là. Pour que maintenant, les feux soient libres et verts, pour que le dévoilement puisse se faire entre le Créateur et la créature qu'il a choisie. Et donc c'est ce qui va nous amener au chapitre 19, qui est le point de départ du dévoilement qui va avoir là au chapitre 20. Donc chapitre Yutet Vekaf, c'est toute l'arrivée du dévoilement et le dévoilement lui-même. La seule question qu'on doit se poser, c'est lorsque finalement le dévoilement va arriver, est-ce que les Bnei Israël sont d'accord de recevoir le dévoilement divin ou pas? Eh bien ça, c'est ce qu'on verra. Pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine.